Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. On ne vous apprendra rien en disant que les salles de cinéma sont encore fermées, mais eh bien notre émission est là pour essayer de vous aiguiller un peu pour peut-être aller voir ce qui se passe sur les plateformes ou ce qui sort en VOD. Et puis pourquoi pas aussi acheter des DVD qui ressortent, n'est-ce pas Guillaume?
Oui, moi je vais aller du côté de Carlotta, je vais vous parler de Peggy Sue s'est mariée de Francis Ford Coppola.
Et ce sera l'occasion de jouer un blind test spécial, eh bien, filmographie de Francis Ford Coppola. Il a fait suffisamment de films pour vous faire écouter 5 extraits à deviner.
Et suffisamment variés aussi.
Oui, effectivement. Je pense qu'ils seront aisément reconnaissables. Et puis quant à toi, Manu, eh bien, tu es allé voir ce qui se passait du côté des plateformes.
Et notamment de Netflix avec une nouveauté, I Care A Lot, avec Rosamund Pike.
Quant à Marine, elle nous parlera de Cross the Line, une sortie VOD. Mais on va commencer donc avec I Care A Lot, Rosamund Pike, dans un rôle de tutrice crapule.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
La cour a jugé sur avis de votre médecin que vous aviez besoin d'une assistance au quotidien.
Je vais bien.
J'ai peur qu'avec cette ordonnance, ce ne soit ni à vous ni à moi d'en décider. Le tribunal m'a désignée comme tutrice légale.
Quoi?
Vous devez venir avec moi. Et n'oubliez pas, je veux vous aider.
Ça fait plaisir de revoir Rosamund Pike 7 ans après Gone Girl, endossée à nouveau un personnage machiavélique, mais quelque chose a changé dans son visage, autrefois plutôt doux et poupon, plus enclin à interpréter des rôles anecdotiques sans réelle épaisseur, même si le contre-emploi dans le film de Fincher impressionna les spectateurs, surpris de l'avoir changé sous nos yeux au fur et à mesure de l'évolution du récit. À 42 ans, elle a aujourd'hui un regard plus affirmé, ses traits se sont durcis, ce qui lui convient à merveille dans I Care A Lot, comédie noire particulièrement méchante, que l'on n'attendait pas sur ce terrain de la part de G. Blackson après son très très fade La Cinquième Vague. Alors Rosamund Pike incarne donc Marla Grayson, une tutrice reconnue, travaillant auprès de personnes âgées, ils ont tous comme point commun le fait d'être riches, avec le soutien de sa jeune compagne, d'une médecin corrompue et d'un juge qui ferme constamment les yeux, elle arnaque depuis des années des individus en fin de vie dans le but d'extorquer leur argent et leurs biens. Alors Marla mène une vie de luxe tout en étant adoubée par ses pairs, considérée comme une bienfaitrice de l'humanité, alliant pragmatisme et humanisme. Mais comme rien n'est éternel, sa nouvelle victime, jouée par la formidable Diane West, n'a pas seulement tous ses esprits, mais cache un terrible secret qui va mettre la tutrice en danger et la confronter à des gens bien pires qu'elle, à moins que... Le point de départ de cette satire cauchemardesque s'avère des plus alléchants, d'autant que le film est mené à un rythme d'enfer, démarrant sur les chapeaux de roue, laissant augurer le meilleur. Les dialogues font mouche, les événements s'enchaînent sans temps mort. La description d'un milieu exerçant dans le social et censé être dans l'empathie se révèle assez jubilatoire. On rit aux dépens des victimes innocentes et sans défense, incapables de se rebeller. Évidemment, le spectateur attend le grain de sable, celui qui va enrayer la machine parfaitement huilée de Marla et ses complices. Alors, auteur complet du film, G. Blackson pousse les curseurs très loin, s'adonne à un esprit politiquement incorrect qui fait du bien en ces temps de bien-pensance généralisée. Alors dans ce jeu de massacre, personne n'est épargné. Le réalisateur s'amuse avec une saine provocation à entacher l'image des minorités par pur esprit de jeu, sans pour autant être dans la stigmatisation. Alors un équilibre sur le fil rouge, mais bien tenu, qui s'avère payant, du moins pendant la première heure. Ici, les méchants sont des lesbiennes arrivistes et un nain diabolique qui n'a qu'une faiblesse, son amour pour sa maman. Même la figure paternelle du juge noir d'une lâcheté peu commune est tournée en dérision. Et on ne parlera pas du corps médical qui n'en sort pas grandi.
Marla Grayson, vous avez connu un succès incroyable. Quel est votre secret?
Il n'y a aucun secret, Peter.
Elle a forcé ma mère à aller dans cette maison. Elle a mis la maison aux enchères et elle se sert du système pour se payer.
La tutelle, c'est mon job.
Hé hey!
Si tu essaies encore de me toucher, j'attraperai ce qui te sert de burn et je te les arracherai brutalement, c'est clair.
Alors aucun personnage n'a droit au salut dans ce thriller enlevé, drôle et plutôt bien construit, qui accuse néanmoins un problème de souffle dans une deuxième partie qui patine légèrement. Alors, en revanche, elle ne cherchait aucune réflexion sur le rôle équivoque des tuteurs et de la médecine à deux vitesses aux États-Unis. Ce n'est pas le sujet. iCarolot n'est qu'un divertissement réussi et c'est déjà pas mal en ces temps moroses. Alors, la mise en scène fonctionnelle n'a absolument rien d'exceptionnel. Elle est même, et c'est bien dommage, c'est peut-être la grosse faiblesse du film, assez paresseuse. Elle épouse, comme certaines bonnes séries, un scénario bien écrit et retors, qui n'a pour seule faiblesse que de céder dans son épilogue aux sirènes d'un moralisme attendu, mais aux antipodes de l'esprit général du film. Alors cette concession logique, imposée ou non par les studios, n'arrive pas malgré tout à atténuer l'atmosphère délicieusement cruelle qui irradie cette bonne comédie produite par Netflix, interprétée par des comédiens qui visiblement s'amusent beaucoup. Rosamund Pike en tête, bien sûr, et elle est entourée par la charmante Elsa Gonzalez, aperçue dans Alita, Diane West, bien sûr, magnifique actrice, associée d'ailleurs à plusieurs Woody Allen, et surtout Peter Dinklage, célèbre pour jouer dans Game of Thrones. Alors, en un mafieux russe, il est absolument génial, terrifiant et drôle, dans ce joyeux pastiche qui évoque, dans ses meilleurs moments, le cinéma décalé des frères Coen. Alors, il manque juste à son réalisateur un petit peu de génie et d'inspiration formelle, mais bon, personne n'est parfait, et puis... vu ce qu'on a actuellement en production indépendante et sur les plateformes, on ne va pas trop se plaindre d'un film pas complètement réussi, mais qui remplit, on va dire, sa fonction, divertir.
Oui, et effectivement, alors après, le scénario peut être un peu paresseux vers la fin, mais effectivement, le personnage du mafieux russe...
Ah ben, il est formidable, c'est assez rare. Et c'est vrai que ça, là, il sort tout à fait d'un film des Coen. Et c'est la première référence à laquelle on pense quand même.
Je sais ce que vous êtes en train de faire. Votre arnaque. Il n'y a qu'à voir les vaches à lait sur votre mur que vous êtes en train de pomper jusqu'à la moelle. Mais pas avec Jennifer Peterson. Elle, on n'y touche pas. Elle a des amis puissants, très puissants, qui auraient la possibilité de vous rendre la vie extrêmement désagréable.
Désagréable à quel point ?
I Care a Lot, donc c'est un film qui est en ce moment sur la plateforme Netflix. Pas besoin de code pour... en revanche, se procurer le DVD de Peggy Sue s'est mariée, film de Francis Ford Coppola qui ressort donc en DVD. C'est toi, Guillaume, qui va nous en parler. Et c'est l'occasion de faire un gros morceau de l'émission sur Francis Ford Coppola, puisqu'on écoutera un peu de musique et puis surtout on jouera au blind test.
This is Cinerama.
Et ça, c'est clair.
En 1982, Francis Ford Coppola tourne Coup de cœur. C'est à la fois une modernisation des codes de la comédie musicale sur grand écran, une série d'expérimentations esthétiques comme seul Coppola a le courage de les mener alors à Hollywood, et un bond en avant technologique. Avec ce tournage, Coppola bousculait la hiérarchie habituelle d'un tournage en inventant une régie mobile l'assistant directement à côté de la caméra et lui permettant de concevoir le film quasiment en direct. Malgré cette entreprise de génie qui avait plus de 10 ans d'avance sur absolument toute l'industrie du cinéma, parce que depuis c'est devenu quelque chose de particulièrement commun, le projet pharaonique sera violemment boudé par le public. Et commence alors pour Coppola une décennie bien particulière, jonglant entre films de commande et films plus personnels, donc bien sûr le tout pour rembourser cet échec, moment de créativité absolue et réappropriation de matériaux plus consensuels mais non moins prometteurs. Peggy Sue s'est mariée s'inscrit parfaitement dans ce dernier créneau, un projet extérieur qui sera proposé au réalisateur et qu'il va remodeler d'une façon bien étonnante.
Vous vous êtes évanouie, mon enfant, ce n'est rien, ne vous en faites pas.
Mais comment je suis arrivée là ?
Vous devriez laisser vos amis vous accompagner. Conduisez-la au lavabo et passez-lui un peu d'eau sur le visage. Vous verrez, cela la rend.
Ok.
Peggy Sue Baudel est une femme au bord de la crise de nerfs. Elle vient de se séparer de son mari, l'extravagant Charlie, qui l'a quitté pour une jeune minette et doit faire bonne figure malgré son absence à la réunion des anciens élèves de son lycée. Le problème est qu'il formait un couple très emblématique de ces années-là et le regard des autres, qu'ils soient bienveillants ou plus acerbes, pèse un peu plus lourd à chaque minute qui passe sur les épaules de notre pauvre héroïne. Cette soirée, c'est l'occasion de voir ce que sont devenus les anciens copains ou connaissances. Il y a les amis de toujours, devenus de bonnes mamans sans relief, Maddie et Carole. Il y a Richard Norvik, le geek, devenu riche grâce à ses travaux en informatique, et aussi le souvenir du ténébreux Michael Fitzsimon, le poète beatnik rebelle par essence, qui n'est pas présent à la soirée. Alors que Richard et Peggy Sue sont élus roi et reine de la soirée, la pauvre infortunée cède au poids de ses émotions et s'évanouit. Elle se réveille dans l'infirmerie de l'école, mais 25 ans plus tôt, en 1960.
Je suis une femme qui vient du futur. Je vis parmi vous avec 25 ans d'avance.
Tu es sans doute vraiment cinglé. Franchement,
Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Pas de temps pour ce genre de blague. Je sais trop bien ce qu'on pense de moi.
Mais non, non.
Et là, j'apprécie pas.
Écoute-moi. Tu es le seul crack à qui je pouvais m'adresser. Je sais, cela a l'air invraisemblable, mais je vais te le prouver.
Bon, une preuve, c'est un concept scientifique. Alors ?
Tu as un grand-père qui est aveugle, et tu vas inventer une machine qui supprimera les livres en braille. Tu inventeras un tas de choses, tu vas même devenir très célèbre.
Arrête, une minute. Une minute. Comment tu peux savoir pour mon grand-père ?
Parce que tout ce que je te dis, c'est la vérité.
Alors oui, forcément, vous allez tout de suite penser à l'autre film qui prend 1985 pour point de départ et qui parle de voyage dans le temps, le bien nommé Retour vers le futur. Il faut dire que le film produit par Steven Spielberg, grand ami de Coppola, et immense succès de l'année précédente, n'est sûrement pas étranger au lancement de Peggy Sue s'est mariée. Il n'empêche que s'il y a matière à comparer la manière dont est dépeinte le passé, la vision de Coppola traite différemment de Zemeckis la notion de nostalgie. Déjà, pour le personnage principal, il y en a de la nostalgie pour le temps passé, alors que chez Zemeckis, c'est le spectateur qui profite du passé, car son héros, lui, n'a qu'une envie, c'est de le fuir. Peggy Sue a l'opportunité de revenir au moment où sa vie de jeune fille arrivait à son terme et où sa vie de femme allait commencer en épousant Charlie juste après le lycée. Ses récents problèmes de couple, en 1985, vont lui faire se poser la question du « et si c'est à refaire, est-ce que je le referai ?» Et la réponse va être bien sûr bien moins évidente qu'elle n'y paraît, car ni la Peggy Sue ni le Charlie de 1960 ne sont les mêmes que ceux de 1985. Ils n'ont pas encore été rongés par la difficulté d'un quotidien dont la banalité a étouffé l'étincelle. La vraie question à laquelle Peggy Sue doit trouver la réponse est « qu'est-ce qui fait que je suis tombée amoureuse de ce garçon au point de faire ma vie avec lui et de beaux enfants ?» Était-ce pertinent ? Ai-je exploré tout ce que ma jeunesse me proposait ? Le retour, dans cette époque plus insouciante, va la reconfronter à son attirance pour le fameux poète beatnik Michael Fitzsimmons et se transformer en voyage introspectif sur la femme qu'elle est devenue. Peggy Sue s'est mariée est ainsi une bouleversante réflexion sur le temps qui passe et sur le poids des responsabilités que l'on devra tenir autant pour soi que pour les autres. C'est aussi un très simple, juste et terrible rappel que ceux qui comptent pour nous ne seront malheureusement pas éternellement là, comme le montre la poignante réaction de Peggy Sue lorsqu'elle entend la voix de sa grand-mère à nouveau vivante au téléphone. L'aspect immaculé et pastel de ces nouvelles 60s dope ce sentiment d'être hors du temps. Le choix d'acteurs ne ressemblant en rien à des adolescents pour jouer à la fois des jeunes et des moins jeunes brouille les pistes chronologiques et semble être un commentaire amusé sur des productions comme Happy Days ou encore Grease, avec ses terminales qui ont tous l'air d'avoir 30 ans. Si les genoux Nicolas Cage ou Jim Carrey impressionnent, c'est Kathleen Turner qui trouve peut-être ici le rôle de sa vie, tant sa composition difficile est parfaite. Coppola achève sa leçon de cinéma avec un plan truqué en ouverture et en fermeture de son film qui questionne la notion de réel et que James Cameron lui reprendra quelques années plus tard pour une très célèbre scène de la version longue de Terminator 2, encore une histoire de voyage dans le temps. Il est bon de rappeler que l'humanisme du film vient du fait qu'on ne s'embarrasse pas d'un argument de pure science-fiction, car ici, pas de machine tarabiscotée, juste le pouvoir de la pensée, comme dans le magnifique « Quelque part dans le temps » de Jeannot Swark. Si Coup de cœur avait marché, le cinéma de demain aurait vu naissance dès 1982. Ironiquement, c'est de cet échec qu'en ressortira cette magnifique réflexion sur le poids du passé et notre rapport avec le temps qu'est Peggy Sue s'est marié, qui sera un gros succès public et critique. Comme quoi, quand on mise sur le futur, on n'en est pas à un paradoxe temporel près.
Et on va écouter un extrait de la bande originale de ce film. Et c'est quoi ?
C'est Buddy Holly, pour justement la chanson « Peggy Sue Got Married ».
Please don't tell, no, 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 don't say that I told you so. I just heard a rumor from a friend. I don't say that it's true, I'll just leave that up to you. If you don't believe, I'll understand.
is what I heard. Of course the story could be wrong. She's the one I've been told. Girl, she's wearing a band of gold. Peggy Sue got married not long ago. Peggy Sue got married not long ago.
Extrait de la bande originale du film Peggy Sue s'est mariée, dont tu nous parlais, Guillaume, tout à l'heure, film qui ressort en DVD. Alors, ce film ne figurera pas dans le blind test spécial Francis Ford Coppola qu'on vous propose maintenant.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague ?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Récompensé 5 fois aux Oscars, 2 Palmes d'Or au Festival de Cannes, dans la besace, et puis des milliers d'hectares de vignes en Californie. Voilà, c'est Francis Ford Coppola. 5 extraits à écouter, des choses très faciles, comme par exemple ce premier extrait.
On se connaît tous les deux depuis des années, mais c'est la première fois que vous venez me demander un conseil ou un coup de pouce. Je ne sais même plus à quand remonte la dernière tasse de café que je suis venu prendre chez vous. Pourtant, ma femme est la marraine de votre seul enfant. Alors, un peu de franchise, vous avez repoussé mon amitié. Parce que vous aviez trop peur d'être mon débiteur.
Je ne voulais pas avoir d'ennui.
Oh, je comprends. Vous aviez le paradis en Amérique. Une affaire qui tournait, une bonne petite vie tranquille, la police, les tribunaux pour vous protéger. Vous n'aviez pas besoin d'un ami comme moi.
Ça a été trouvé, évidemment, parce que c'était extrêmement facile.
C'était Le Parrain.
Et c'était le 1, celui de 1972. Adaptation du roman du même nom de Mario Puzo. L'histoire se déroule de 45 à 55 et est centrée sur les Corleone, une des plus grandes familles de la mafia américaine. Et puis le film a bien abordé la succession du patriarche de la famille, Vito Corleone, dit Le Parrain, donc Marlon Brando, et de l'ascension de son plus jeune fils, Michael, interprété par Al Pacino. Alors, eh bien, que ce dernier souhaiterait bien rester en dehors des activités criminelles de la famille, eh bien, il va finir par devenir le membre le plus impitoyable. 3 Oscars, celui du meilleur film, meilleur acteur pour Marlon Brando et du meilleur scénario adapté donc pour Puzo et Coppola. 4 millions d'entrées en France pour ce film. Deuxième extrait pour ce blind test spécial Francis Ford Coppola.
Qui peut bien s'intéresser à ces deux-là ?
Je sais pas.
Le ministère de la Justice ?
Non.
Je suis prêt à parier qu'on enregistre pour le fisc. Avec leur bande, je m'en dors à chaque fois.
Depuis quand est-ce que t'es là pour te distraire ?
Parfois, c'est bien de savoir de quoi ils parlent.
Ce qu'ils disent, j'en ai rien à faire. Tout ce que je veux, c'est un bel enregistrement.
Trouvé.
Et c'est Conversations secrètes.
Oui, film de 1974 avec Gene Hackman. Harry Cole, catholique introverti et secret, est un grand spécialiste de la filature. Il est engagé dans une mission pour suivre un couple et enregistrer leur conversation. Et une fois sa mission accomplie, eh bien, il découvre en écoutant son enregistrement que le couple est en danger de mort. Et se souvenant d'une précédente mission au cours de laquelle une famille avait été tuée, eh bien, il est pris dans un dilemme moral qu'il ne parviendra pas à surmonter. C'est la Palme d'Or du Festival de Cannes 1974. Et par contre, c'est une bonne raclée au niveau du box-office français, puisque c'est seulement 244 000 entrées. Ce film a beaucoup mieux marché dans les salles. On écoute.
Pardonnez ma curiosité, mais pourquoi 10 maisons à des endroits aussi précis autour de Londres ? Dans le but de réaliser une plus-value ?
Croyez-vous en la destinée ? Croyez-vous que même les pouvoirs du temps peuvent être modifiés dans un unique but. L'homme le plus heureux de cette terre est celui qui trouve le grand amour.
Alors, c'était facile à trouver parce que l'ambiance est quand même là, c'est...
Dracula.
Oui. Dracula, film de 1992, on est tous d'accord. Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins et Keanu Reeves, qu'on est écouter en tout cas la voix française dans cet extrait. 400 ans après avoir défié Dieu, désireux de quitter la Transylvanie pour s'établir en Angleterre, eh bien le comte Dracula fait appel à Jonathan Harker, clerc de notaire et fiancé à la jolie Mina Murray. Et la jeune fille eh bien, est le sosie d'Elisabetta, l'amour ancestral du comte. Et tout cela fait 3 166 000 entrées en France.
C'est un superbe score pour un film qui était à contre-courant à l'époque. Parce que en 91, il y a Terminator 2 qui sort, qui est une révolution technologique avec le personnage du T-1000 en 3D. Et Coppola a fait le pari inverse un an plus tard d'utiliser que des effets spéciaux optiques, remontant même jusqu'à les techniques employées par Méliès. Et c'est un gros succès malgré tout. Donc c'est un sacré coup de poker qu'il a fait.
Ouais. Ben, ça tient peut-être au réalisateur et puis à la distribution, mais quoique après, on pourrait en parler, mais les films ont bien moins marché dans les années 2000 pour le réalisateur américain. C'est le cas de ce film-là.
Elle a enregistré toutes vos conversations pour les transmettre à la Gestapo. Et quand elle vous a interrogé en russe, en polonais ou en allemand, vous avez répondu sans difficulté dans chacune de ces langues. Probable qu'après avoir écouté tous ces enregistrements, un haut dignitaire du Reich ait décidé de vous faire enlever.
Me faire enlever, moi ?
Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous valez, Dominique. Vous êtes un spécimen d'humanité d'une rareté inouïe. Un phénomène à vous tout seul. Bon, allez, revenez manger.
Trouvez, Guillaume.
C'est l'homme sans âge ?
Oui. Film de 2007 avec Tim Roth. L'histoire, eh bien, en 1938, frappé par la foudre à Bucarest, le vieux professeur Dominique Matei accède à un état de surdoué, hypermnésique, et bien il peut poursuivre la quête de sa vie, la recherche des origines primaires du langage. Le rajeunissement est l'une des étapes visibles de son état et seulement 84 000 entrées en France.
Voilà. C'est dommage parce qu'en plus c'est le glas un peu de la carrière de Coppola en salle. Parce qu'il a fait 3 films à la suite, il a fait L'Homme sans âge, il a fait Tétro, il a fait Twixt, et ces films sont absolument magnifiques, mais n'ont pas eu un grand succès, alors que Coppola a jamais été aussi expérimentateur dans ses films que depuis qu'il était un étudiant de l'université, donc... C'est vraiment dommage.
Bah, c'est peut-être moins le Coppola expérimentateur que le public apprécie, où ses films sont mal distribués, ou alors après on peut trouver plein de raisons. Dernier extrait de ce blind test.
Tu vois, j'aurais bien aimé être le grand frère de tes rêves. Mais je fais pas non plus ce que je veux, tu sais. Pas plus que toi. Écoute, je vais remettre les poissons dans la rivière. Et après toi, tu pourras me rendre un petit service,
quoi?
D'accord? C'est très important, alors fais attention.
D'accord. Bien sûr que je t'écoute.
Je veux que tu prennes la moto, tu entends? Et je veux que tu t'en ailles avec. Tu comprends? Tu vas filer tout droit jusqu'à l'océan. Je veux que tu suives la rivière. Direct jusqu'à l'océan.
Ça a été trouvé très rapidement.
C'est Rusty James.
Oui. Film de 1983 avec Matt Dillon et... la voix française, effectivement, de Mickey Rourke. Nous sommes dans l'Oklahoma, à Tulsa, et en l'absence de son frère aîné, Motorcycle Boy, Rusty James n'hésite pas à affronter lui-même eh bien, un chef de bande rivale. Il sera sauvé par le retour de son frère, alors qui, lui, est un être plutôt désabusé, fasciné par les poissons, qui s'acharnent eh bien, contre leur propre reflet. Voilà, c'est une scène du film, et une des rares scènes colorisées dans un film quasiment entièrement donc, en noir et blanc. C'est 1 million d'entrées en France pour Rusty James qui terminait donc ce blind test. À noter quand même que Francis Ford Coppola, c'est le père des réalisateurs Sofia Coppola et puis Roman Coppola, quoique bon, il a fait beaucoup moins de films, le fiston. C'est le grand-père de la réalisatrice Gia Coppola qui était présente à la Mostra de Venise 2020, qui a présenté un film. C'est le frère de l'actrice Talia Shire et l'oncle des acteurs Nicolas Cage, qu'il a fait jouer quand même, et puis Jason Schwartzman, ainsi que du musicien et acteur Robert Carminé. On referme cette séquence consacrée à Francis Ford Coppola. Je rappelle bien qu'on parlait de la ressortie d'un DVD, celui de Peggy Sue s'est marié. Cross the Line, film de David Victory. Eh bien, c'est Marine qui nous en parle, notamment des clichés ratés pour ce film sorti en VOD le 18 février dernier.
This is Cinerama.
Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça.
Excuse-moi, ça te gêne pas si je m'assois?
J'ai commandé 2 hamburgers, il y a quelqu'un qui devait me rejoindre, mais on m'a laissé en plan.
Ça t'embêterait de payer ma note ?
Danny est un jeune trentenaire très discret, plutôt réservé, qui travaille pour une agence de voyage à Barcelone. Il a voué sa vie à aider son père malade en oubliant de vivre pour lui et lorsque ce dernier décède, il n'envisage pas davantage de prendre son existence en main. Sa sœur décide alors de lui donner un coup de pouce et lui offre un billet pour un tour du monde. La veille du départ de ce voyage qui devrait enfin changer sa vie, Danny rencontre Mila, une jeune tatoueuse très sexy mais qui semble quelque peu instable. Alors dans le film, cette dualité est représentée assez simplement hein, par le fait qu'elle porte des collants troués et qu'elle ait de nombreux tatouages. De fil en aiguille, c'est le cas de le dire, Danny se retrouve à passer la soirée avec Mila, à boire plus que de raison. Il accepte de se faire tatouer car c'est bien connu, on fait tout cela avec la première personne rencontrée dans un bar. Et ils sont malencontreusement surpris par le copain de la jeune femme, plutôt énervé de trouver quelqu'un d'autre dans son lit. Le ton monte, la soirée dégénère et la nuit qui va suivre sera très très longue pour Danny, pour qui tout va basculer.
Comment tu t'appelles ?
Daniel.
Moi c'est Mila. Tu m'accompagnes ici à côté et je te rends ton fric ?
Mais je viens de te le dire, t'es mon invité. T'inquiète pas pour les burgers, c'est rien.
Viens.
Non, non, je dois vraiment y aller, là je dois rentrer.
Allez, viens.
Sérieux ?
Qu'est-ce qui se passe, t'as peur ?
C'est le deuxième long métrage de David de Victory, réalisateur espagnol, plutôt tourné vers le polar et le fantastique. Cross the Line, initialement intitulé No Mataras, je le prononce sans aucun accent, désolé, ce qui signifie tu ne tueras à point, et son premier film visible en France est également le premier à être présenté au festival de Stiges, festival catalan du film fantastique. On est ici davantage dans le polar hein, que dans le film fantastique, et dans le polar un peu bancal, hein, même s'il présente une deuxième partie très efficace qui met beaucoup trop longtemps à démarrer et se regarde beaucoup filmé. Cela pourrait être un petit thriller bien ficelé, tourné quasi en temps réel, avec un héros ordinaire qui se retrouve pris dans une succession de malheurs et de mauvaises décisions. Oui, mais voilà, ce genre de film a déjà été vu plus d'une fois et a déjà été bien mieux fait. On pense notamment à Victoria, film allemand dans lequel une jeune femme se retrouve impliquée dans un braquage à l'issue d'une soirée en club et tournée en plan séquence. Ici, le personnage central, Danny, n'est pas suffisamment dessiné pour être crédible. Il est interprété par le comédien Mario Casas. Alors bien que peu connu chez lui, hein, il a une carrière assez étoffée en Espagne qui va de polar en film érotique en passant par des films d'auteur ou encore des comédies romantiques. Dans Cross the Line, Mario Casas se contente malheureusement d'arborer un sourire soumis pendant toute la première partie du film pour rendre la gentillesse du personnage palpable. Or, la carrure très musclée du comédien qui est aussi mannequin vient quelque peu contrecarrer la fragilité qu'il tente d'insuffler à son personnage. Car non, il ne suffit pas de porter des lunettes pour avoir l'air timide. Il n'y a que dans Superman que les lunettes cachent les muscles de Clark Kent. Cross the Line souffre beaucoup de ce genre de maladresse qui pourrait lui apporter un côté film de genre fun et sans prétention si le réalisateur ne s'attardait pas autant sur chaque plan un peu élaboré qu'il commet, comme s'il souhaitait nous faire apprécier de force le talent de réalisation qu'il tente de déployer ou comme s'il tentait de faire dépasser à son film les 1h10 de gré ou de force. Et puis le personnage féminin hein, par qui le malheur et le danger arrivent est tellement outré qu'il en devient parodique. On ne comprend absolument pas les motivations de la jeune tatoueuse qui semble se laisser aller à des comportements ordaliques sans aucune raison. Et il serait temps que les scénaristes comprennent que la figure de la jeune femme barrée et nymphomane qui jette son dévolu sur des hommes uniquement pour le plaisir de les mener à leur perte, cette figure a largement, maintenant que nous sommes en 2021, fait son temps.
On est des animaux. Si tu l'oublies, t'es foutu. La police sait que cette fille est rentrée chez elle accompagnée. Par contre, ils savent pas si la personne est partie avant ou après le décès.
Cross the Line est disponible en VOD.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
On se retrouve la semaine prochaine encore avec un film de Coppola, Guillaume.
Et oui, parce que conjointement à Peggy Sue s'est mariée, Carlotta a aussi édité le méconnu et pourtant très beau Jardin de Pierre.
Et puis moi, je vous parlerai d'un film où on retrouve Mel Gibson et Naomi Watts, Boss Level.
Il paraît que tu voudrais déjà être à l'eau, hein ?
Pourquoi ?
T'as vu un peu ces belles vagues, là ? Qui
serait bien, c'est qu'on les prenne de biais et puis de face en simultané, c'est toi.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce que t'en dis?
Ben, je crois qu'il vaut mieux qu'on attende d'être à Mario.
Non, pas d'accord. Land, viens voir, regarde.
Coussez-vous.
This is Cinerama. Cinerama. Cinerama.